Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu es à la recherche d'un espace d'échange, d'entraide et de dépassement de soi, avec des défis à relever quotidiennement et même un atelier mensuel pour faire un exercice ensemble pour avancer, je t'encourage à rejoindre ma Safe Place. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent. Surtout pendant les appels offerts, généralement, on me dit « j'en ai marre, je veux plus retourner dans mon taf, je veux changer de boulot, je me renseigne là pour faire un bilan de compétences, il y a des petites voix qui m'intéressent, je pense que je vais faire une reconversion professionnelle, je vais changer de boulot ». Donc la grande question c'est, est-ce que finalement on est obligé de changer de taf après un épuisement, voire, enfin quand je dis un épuisement, c'est-à-dire un burn-out, mais... Est-ce que aussi après un burn-in, on peut se poser la question suis-je obligé de changer de boulot? Oui. C'est sûr que dans un épuisement, qu'il soit burn-in ou burn-out, il y a une baisse de l'efficacité au travail, il y a un désengagement dans ce que tu fais. Des fois, tu t'embrouilles avec les collègues, peut-être avec l'employeur. Des fois, il y a une sale ambiance, ça peut même être un endroit très toxique pour toi, et donc tu te demandes si c'est pas plus pertinent de changer d'entreprise et de faire genre un virage à 360 degrés ou j'en sais rien moi, un commissaire aux comptes qui devient sophrologue ou une professeure qui veut reprendre des études, hein. Il y en a hein, qui veulent reprendre des études pour faire un autre boulot qui n'a absolument rien à voir. Et ouais, c'est une question qui se pose, mais attention, c'est pas si simple. Il y a le psychologue Xavier Pomereau qui dit que changer de travail peut aider, c'est sûr. Mais il faut en fait d'abord changer ta relation au travail. C'est-à-dire que si tu changes de boulot sans changer ta manière de bosser, ta manière d'être au boulot, la place que tu donnes à ton taf dans ta vie, ton rapport au boulot, en fait, si tu ne changes pas tout ça, t'as beau changer de métier, de poste, d'endroit, d'équipe, bah, tu risques de tomber dans les mêmes pièges. Il y a aussi Arianna Huffington, la fondatrice de Huffington Post, qui a complètement changé son approche au boulot après avoir souffert d'épuisement. Où elle a écrit tout un livre qui s'appelle Thrive, T-H-R-I-V-E, où elle parle de l'importance de la déconnexion et du bien-être. C'est-à-dire que il n'est pas juste question de changer de boulot, mais il faut revenir à ce travail d'introspection, à ce travail de connaissance de soi et à ce travail de recadrage. Parce que, encore une fois, si tu refais toujours les mêmes choses, tu auras le même résultat en fait. Même si ton équipe elle est chouette, au fur et à mesure, après un certain temps, tu verras que les mêmes schémas vont se reproduire. Par exemple, tu vas changer de boulot parce que t'es épuisé, surmené, surcharge de travail. Donc tu changes de taf, tu repasses des entretiens, peut-être que tu changes de métier aussi. Mais voilà, dans ton nouveau boulot, tu fais exactement les mêmes choses. Par exemple, t'es tout aussi obsédé par la perfection, t'es tout aussi susceptible au regard de l'autre, t'as autant besoin de la reconnaissance de l'autre, t'as toujours autant de mal à déléguer, tu fais toujours des longues heures, des heures supplémentaires, de longues journées. Voilà, tu fais de longues journées, tu prends ton boulot à la maison, t'arrives pas à casser un peu la partie pro et la séparer de la partie perso, donc tu repars avec tes mauvaises habitudes. En gros, tu vas simplement refaire les mêmes choses, les mêmes soucis, les mêmes erreurs quelque part dans ton nouveau job. Et donc, ça va se terminer par la même histoire, à savoir le même scénar, celui où tu vas finir épuisé. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, avant de se poser la question, est-ce que je vais changer de boulot ou pas, est-ce que je vais changer de poste, d'équipe, voire de métier, c'est de se dire, qu'est-ce qui, dans mon comportement, me pousse à cet épuisement? Qu'est-ce qu'il y a dans ma relation au travail qui pousse à cet épuisement? Quel est Voilà, mais les pensées qui traversent mon esprit, quelles sont les croyances, bien évidemment, qui alimentent cet épuisement. Parce que pareil, on pourrait parler d'organisation. Est-ce que tu as une bonne orga et tout ça? Mais encore une fois, pour avoir une bonne organisation, il va falloir savoir prioriser et déléguer. Donc, si tu as du mal à prioriser parce que tu estimes qu'absolument tout est important, et si tu as du mal à déléguer parce que tu as peur que ce soit mal fait ou que ce soit mal vu, ou voilà, bref, si tu as du mal à le faire, bah, tu ne sauras pas revoir ton organisation. Donc, vraiment, on revient à ça, la base de la base, avant de se poser la question, est-ce que je vais changer de boulot ou pas, c'est d'abord de se poser la question, moi, dans mon comportement, qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je me mets la pression? Si c'est le cas, bah, comment je peux arrêter de le faire? Est-ce que je suis perfectionniste? Si c'est le cas, bah, comment je peux relativiser, prendre du recul? Donc tout ça revient à dire, identifier tes croyances et changer tes schémas. Et bien évidemment, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, mais c'est très important. Je veux dire, on peut pas négliger cette partie, on peut pas ne pas la faire. On ne peut pas sous-estimer cette étape. Vraiment, c'est super important parce que tout part de là. Mais voilà, c'est pas évident parce que tu sais pas par où commencer, tu sais pas forcément quelles sont les questions à te poser, et puis tu sais pas trop comment changer tout ça. Enfin, on nous a jamais appris à le faire, et puis surtout pas les choses qui sont pas assez palpables, les choses qui sont assez psychologiques. Ben, on a du mal avec, et c'est pour ça que tu as besoin de l'aide, soit d'un coach, d'un thérapeute, qu'importe. Mais faut vraiment faire appel à un professionnel pour apprendre à mieux te connaître, à connaître tes limites pour pouvoir toi les respecter et les faire respecter par les autres, apprendre à prioriser et apprendre à te prioriser toi aussi. C'est-à-dire comprendre que le bien-être n'est pas un luxe. Le bien-être, c'est un peu comme manger, boire, dormir. C'est-à-dire si tu veux être efficace au quotidien et bien faire ton travail et bien t'occuper des autres, tu as besoin de t'occuper de toi-même, bien manger, bien dormir et bien se reposer, et genre bien prendre soin de soi. Et surtout, bien se connaître parce que tu pourras du coup voir de loin les signes d'épuisement. Et ainsi les éviter. Le but dans tout coaching, d'ailleurs, c'est quoi? C'est de devenir autonome. Tu vas pas te faire un coaching tous les 6 mois ou tous les 2 ans ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut que tu saches, genre, t'apprends. Finalement, pendant un coaching, tu apprends à t'écouter. Et donc, dès que tu vois les signes d'épuisement arriver, tu as de quoi anticiper pour l'éviter. C'est pour éviter aussi toute rechute. Tu te reconstruis après ton burn-out. Ça, c'est une chose. Mais éviter d'autres burn-out, c'est une autre histoire. Et bien sûr, quand tu bosses avec un coach, tu apprends à mettre en place les actions qui vont te permettre de te requinquer, donc te reconstruire après un burn-out, mais tu sauras aussi éviter toute rechute. Ceci dit, parce que à cette question, tu l'auras compris, il n'y a pas de réponse binaire, quoi. C'est pas oui, tu dois changer de boulot ou non, tu dois pas changer de boulot. Non, non, tout dépend de ta situation et parfois le changement s'impose. Donc imaginons que tu es dans un environnement de travail toxique, imaginons c'est un burn-out. Suite à un harcèlement moral ou sexuel ou discriminatoire, tu vois. Imaginons, t'es dans une équipe où c'est mort, c'est plus possible. Je veux dire, vous pouvez même plus vous parler, ou ça a été trop loin, et que le retour en arrière, il paraît un peu inconcevable, quoi. Vraiment, genre, c'est mort. Imaginons, t'es dans un milieu où la compétition, elle prime sur la collaboration, et toi, c'est pas ton truc. Il y a des gens qui sont pour la compétition, ils vont s'en sortir dans ce genre de milieu. Mais si toi, tu préfères la collaboration, bah, ce genre de milieu, ça va pas être pour toi. Et le contraire est pareil, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pour la compétition, il va pas s'épanouir dans une équipe comme ça, horizontale, où on doit bosser la main dans la main. C'est tout, c'est des gens, c'est des personnalités, d'où la connaissance de soi et son importance. Imaginons les collègues, les supérieurs, tu as fait tout en maximum, mais ils te soutiennent pas, c'est pas demain la veille que ça va changer. Donc des fois, il y a des situations où les efforts que tu fais ne sont jamais reconnus, et tu sais que si tu y retournes, ça va être pareil. Donc certes, tu peux travailler ton rapport à la reconnaissance, mais bon, on a quand même besoin de reconnaissance. Faut pas en devenir obsédé, mais ça peut pas. Faut pas que ce soit la seule raison pour laquelle tu travailles, mais on en a quand même besoin. Donc si t'es dans un endroit où tu reçois ni reconnaissance, ni appréciation, ni retour sur ton travail acharné, voilà. Des fois, t'as des problèmes de valeur où t'as évolué. Donc au moment où le moment où tu as commencé à bosser dans cette entreprise, bah, ça allait, mais voilà, dans ta vie, dans une vie, on a tout un tas de changements, et donc on évolue. Et peut-être qu'aujourd'hui, tes valeurs et celles de l'entreprise, c'est à l'antipode, et c'est pas possible pour toi d'y retourner. Ça peut être une question d'éthique, de développement durable, de culture d'entreprise. Donc voilà, tu vas pas y retourner et subir une sorte de conflit interne et profond au quotidien. C'est pas possible, ça ne peut que finir en dépression, cette histoire. Donc dans ce cas, écouter son intuition peut être très important. Et si au fond de toi, tu ressens ce malaise constant, une sorte de... Tu sais, vraiment, tu n'arrives pas à te projeter. C'est quelque chose qui te semble plus qu'évidente. Pour toi, c'est... Tu peux plus. Tu ne peux plus, c'est trop dur, c'est plus fort que toi, tu te vois pas y retourner. Donc là, tu peux te poser la question, alors c'est sûr, c'est une décision qui mérite réflexion. Et ça demande des recherches, et voilà, faut aller se renseigner. Est-ce que tu veux juste changer de métier? Est-ce que tu peux en parler à ton employeur? Peut-être qu'il peut te changer d'équipe ou te changer de poste. Faut voir autour de toi. Il n'y a pas mieux que toi pour connaître ton marché et voir si les entretiens sont faciles ou non, est-ce qu'il y a du boulot ou pas, ou est-ce que tu dois changer de boulot. Pour ça, bah, voilà, faut se renseigner sur les bilans de compétences. Est-ce qu'ils sont pris en charge ou non? C'est quand même une. Faut se donner du temps. Je veux dire que c'est une décision, tu le sais, c'est une décision très importante. Donc, prendre le temps de se soigner. Beaucoup vont culpabiliser parce qu'elles sont en arrêt. Genre, pour être en arrêt, il faut que tu sois cloué au lit tellement t'es malade, ou alors avec un plâtre, ou je sais pas quoi. Mais non, non, après un burn-in ou un burn-out, on a le droit aussi de se prendre quelques jours, voire quelques mois pour se soigner. Donc, prendre ce temps-là. De toute façon, t'as cotisé pour, donc il n'y a pas de raison de culpabiliser. Tu cotises pour pouvoir te reposer quand t'en as besoin, quand t'es malade, et tu es malade, même si c'est pas encore considéré comme une maladie, n'empêche que t'as un souci de santé mentale et physique, et il faut en prendre soin. Donc, prends le temps nécessaire de te soigner, de te requinquer, d'avoir les idées claires, de sortir du flou, de sortir du brouillard, de mieux te connaître, de mieux connaître tes besoins. Et seulement après, pose-toi la question, est-ce que j'entame une reconversion professionnelle ou non? Personnellement, j'ai accompagné et j'accompagne actuellement des nanas qui enfin, me disent non, 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 je vais reprendre mon boulot parce que j'aime mon taf, parce que c'est une vocation, parce que, je sais pas, j'aime la structure ou j'aime l'équipe ou j'aime les valeurs, qu'importe, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est pas du tout automatique. Beaucoup de nanas font des burn-in et des burn-out, elles se font accompagner et après, quand elles vont mieux, elles reprennent leur boulot, celui qui les a menés au burn-out, mais elles le reprennent avec un état d'esprit complètement différent, le reprennent avec un mindset costaud, c'est-à-dire elles ne vont plus se comporter de la même manière, que ce soit avec les collègues, avec les clients, avec les patients, avec l'équipe, avec l'employeur, avec la surcharge de boulot, avec les responsabilités, avec les pressions. C'est toute la personne qui a changé. Et donc, si la personne change, logiquement, le résultat va changer. Donc, vraiment, je voulais insister là-dessus. Beaucoup de nanas font des burn-out, se reconstruisent, bien évidemment, grâce à l'aide de professionnels, pas juste d'un coach. Hein. Pour la plupart, elles font et le coaching, et la psychothérapie, et la sophrologie. Pour certaines, elles passent par une période d'antidépresseurs. Ensuite, le sport, elles reprennent tout petit à petit l'alimentation. Elles vont peut-être voir un acupuncteur, un kinésiologue, ou je sais plus comment on appelle ça. Pour dire vraiment, faut comprendre que le burn-out a besoin il a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. Certes, tout commence par un médecin traitant, je le dirai jamais assez, mais il faut pas s'arrêter au médecin traitant. Il a beau être super compétent, même s'il est phytothérapeute, aromathérapeute, homéopathe et tout ça, c'est très bien, mais il va pas travailler la psychologie, il va pas travailler la résilience, il va pas travailler la confiance en soi. Donc vraiment, ne t'arrête pas à ton médecin traitant, ne t'arrête pas à ton psychiatre. Pour la plupart, on va pas se mentir, le psychiatre, il est surtout là pour renouveler les médicaments, quoi, les anxiolytiques, les antidépresseurs. Mais toi, tu as besoin de bosser le psychologique, le mental. Et pour ça, tu as les coachs, les thérapeutes, et les psychologues. Donc, voilà, je sais que pour beaucoup, le budget, il y a un certain budget à mettre sur la table. Mais en gros, c'est un investissement sur soi parce que de toute façon, tu en as besoin. C'est-à-dire que c'est soit tu fais un travail tout bancal, insuffisant, et donc bah, il y a un burn-out qui va tomber dessus dans pas longtemps et tu vas recommencer. Il faut savoir que plus tu fais de burn-out, moins ton corps le supporte. Le premier burn-out, tu vas plutôt bien le supporter. Le deuxième, il va te casser davantage. Le troisième, il va t'achever. Voilà, on n'est pas fait pour enchaîner les burn-out. Donc, autant se dire, je me mets en priorité. Je mets ce qu'il faut sur la table, je prends soin de moi pendant un certain temps, et après, hop, on n'en parle plus, quoi. Après, je serai autonome et je pourrai éviter les burn-out par la suite. Je pourrai même éviter le début d'épuisement par la suite, quoi. Parce qu'en réalité, il faut éviter de rentrer dans la phase 2. On n'attend pas le burn-in ou le burn-out. Il faut éviter de rentrer dans la phase 2 ou en sortir le plus vite possible. Et une fois que ce travail est fait, bah là tu sauras si réellement tu veux quitter ton boulot ou pas. Et voilà, digression, mais à la base je voulais juste dire que beaucoup reprennent leur taf et ça se passe bien. Parce qu'elles aiment leur boulot, parce qu'il n'y a pas de souci de valeur, voilà, parce que c'était qu'une question de surcharge de boulot, c'était qu'une question de confiance en soi, c'était peut-être une question de, voilà, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de perfectionnisme. Une fois qu'elles ont bossé tout ça, bah finalement le boulot se déroule correctement. Mais c'est clair que bah, tout au long d'un coaching ou d'une psychothérapie, tu vas apprendre à déléguer, à te donner des pauses et à ne plus culpabiliser parce que tu te prends des pauses. Tu sauras mieux communiquer avec les autres parce que bah, tu te connais mieux, tu sais ce qui t'énerve, tu sais ce qui te met mal à l'aise. Donc voilà, tu... De toute manière, quand on parle d'estime de soi et de confiance en soi, on est beaucoup plus à l'aise avec les autres quand on est à l'aise avec soi-même. Ça, c'est clair. Tu vas apprendre à laisser de la place à ce qui est important, mais aussi de lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle et accepter qu'il y a des choses qui échappent à ton contrôle, que tu n'es pas obligé et de toute manière, tu ne peux pas te contrôler. Tu vas apprendre à ne plus négliger ton hygiène de vie, comme je disais tout à l'heure, bien manger, bien dormir, bien bouger, bien rigoler et bien se détendre. En tout cas, en attendant, je voulais te proposer 3 conseils à mettre en place avant d'envisager de changer de travail. Ça te permettra de revoir ta notion du travail, ton rapport à ton travail et la place que tu lui donnes dans ta vie. Petit 1, ça va être fixer des limites claires entre vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, si tu es en télétravail, tout se mélange, on est d'accord. Tu bosses dans ta cuisine, ton salon. Moi, la première, je suis en train d'enregistrer dans ma chambre. J'ai pas une chambre dédiée pour mon taf, mais j'ai un coin. Donc, j'ai un espace. J'ai créé un espace dédié pour mon boulot. Il n'y a que mon boulot. Je bosse pas sur le canapé, je bosse pas dans mon lit par exemple. Je bosse rarement sur la table de cuisine, mais ça m'arrive. Mais la plupart du temps, je suis quand même dans mon bureau. C'est mon espace boulot. Et quand je sors de cet espace-là, je suis en mode maison. Je suis en mode perso. Je fais de mon mieux pour pas penser à mon boulot. Par exemple, j'ai mon téléphone. Mon téléphone, au début, je répondais à tout et n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Maintenant, j'ai des restrictions. Il y a des endroits dans lesquels je réponds plus, il y a des heures dans lesquelles je ne réponds plus. Ensuite, ça dépend de la personne. C'est pour ça qu'encore une fois, la connaissance de soi est importante. Personnellement, je n'arrive pas à avoir un cadre super strict en fait. Je ne peux pas dire tous les jours, je commence à telle heure, je termine à telle heure. J'ai des routines avec mes enfants et même pour le boulot, donc j'ai des routines matin, midi et soir. Mais il n'empêche que quand c'est trop régulier, soit je me fais chier, soit je ne le tiens pas dans le temps, j'ai besoin que ça bouge. Je me connais, donc je sais que j'ai besoin que ça bouge, donc c'est pas grave si ça bouge. Maintenant, si toi t'as besoin que ce soit organisé au pile-poil près à la seconde, fais en sorte que ce soit organisé comme ça. En tout cas, c'est à toi de fixer tes limites, quand est-ce que tu bosses, quand est-ce que tu arrêtes de bosser. Mais il n'y a personne qui va pouvoir le faire à ta place. Ça, c'est très important. C'est toi qui dois fermer l'ordinateur ou éteindre le téléphone ou le mettre en silencieux ou ne pas répondre à un appel, à un mail. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision-là. Après, il faut absolument intégrer, le deuxième point, il faut absolument intégrer des activités relaxantes. Et ça, au quotidien. C'est-à-dire, tu peux faire du sport une fois par semaine. Tu peux faire peut-être le yoga 2 fois par mois. Ok, il n'y a pas de souci. Mais au quotidien, tu dois avoir un petit temps pour toi. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 2 heures. C'est à toi de voir ce que tu peux mettre en place. Et ce temps-là, pas besoin qu'il soit instagrammable, quoi. Ça peut juste être me mettre à la fenêtre et voilà, laisser partir mon regard et partir dans le vague, le vide. Je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais en gros, ça peut être simple. Être assise, fermer les yeux pendant un certain temps. Si je tricote, je sors mon tricot un peu avant de dormir ou un peu après avoir mangé ou avant une réunion, mais je me donne un temps pour moi, solo, dans lequel je me détends. Au-delà de l'organisation hebdomadaire, mon sport, ma promenade, mon loisir, mon hobby, mes sorties avec mes amis, tout ça. Et bien sûr, le troisième point, on en a parlé 15 000 fois, apprendre à dire non. Quand tu ne peux pas, à dire non quand c'est trop dur, à dire non quand c'est pas ton boulot, à dire non quand c'est mal dit, mal demandé, à la dernière minute, voilà. Il faut apprendre à dire non. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Tu dis pas non à toute la personne, tu dis non juste à ce qu'elle te demande. Et quand t'es pas capable de faire un truc, bah c'est tout, t'es pas capable de le faire en fait. Ça sert à rien de te suradapter, ça ne peut que t'amener à un burn-out brutal et difficile. Donc on apprend à dire non. On évalue chaque demande en fonction de tes priorités et de ta capacité au tenter. Donc bien sûr, on dit non poliment hein, et on essaie de proposer une solution alternative ou dire bah plus tard. Maintenant non, mais peut-être plus tard je pourrai, je reviendrai vers toi si c'est possible. Enfin, tout dépend de ton contexte professionnel, mais je sais même pas si t'es obligé de justifier en réalité. Encore une fois, tout dépend de ton environnement. Mais soit tu proposes une solution, genre va voir avec l'autre ou essayer avec ça ou cherche l'info dans cet endroit. Soit tu dis là maintenant je peux pas, mais à tel moment je pourrai. Ce qui va te permettre finalement de te concentrer sur les tâches les plus importantes, d'être efficace, de faire ton boulot correctement sans détruire ta santé mentale et physique. Normalement, c'est déjà un bon départ pour commencer à créer un équilibre plus sain dans ta vie, te déconnecter efficacement du boulot et mieux profiter de ta vie perso. Mais encore une fois, si tu n'arrives pas à le faire, sincèrement, je ne peux que t'encourager à réserver ton appel avec moi et on verra ensemble. Comment est-ce que je peux t'aider, lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi. Généralement, quand je vois que c'est pas dans mon champ d'action, ben voilà, je recommande à la personne ce qui me semble le plus pertinent pour elle. Mais cet appel, il est super important. Ça t'évite, toi, de t'engager dans un truc qui va pas te donner de résultats. Moi, ça m'évite de travailler avec quelqu'un que je peux pas aider. Vraiment, je te recommande de réserver cet appel. En tout cas, tout ça pour dire, est-ce qu'il faut changer de travail en cas de burn-out? Bah, comme je t'ai dit, la réponse n'est pas binaire. C'est un choix personnel qui dépend de ta situation, de ton boulot, des dégâts de ton burn-out, la raison pour laquelle tu as fait un burn-out. Mais savoir que changer de travail peut être une solution. Sauf que si tu ne changes pas en parallèle ta manière d'être au travail, ta manière d'être au quotidien, ta façon de bosser, ta manière de considérer le boulot et la place qu'il a dans ta vie, tu risques de te retrouver dans la même situation, même dans ton nouveau travail. Donc le premier truc à faire en réalité, c'est un travail sur soi. Et c'est pourquoi je te disais, prends le temps de prendre soin de toi, quoi. Vraiment, l'arrêt maladie, tu l'as pas volé, tu as cotisé pour. Donc prends le temps de prendre soin de toi. Prends le temps de bien te connaître, de bien comprendre pourquoi tu as fait un burn-out, quel est le comportement qui t'a amené à ce burn-out, quels sont les excès qui t'ont amené à ce burn-out. Tu recadres tout ça et seulement après, tu pourras te poser la question. Une fois que t'es requinqué, vraiment en forme et tout, c'est bon, t'as repris confiance en toi, tu te sens bien dans tes pompes et tout, seulement là, tu pourras te poser la question, est-ce que je change de boulot ou pas? Mais des fois, c'est une évidence. Voilà, pour certaines filles, c'est une évidence, il est hors de question de retourner à mon taf. Mais même avec cette évidence, je te recommande quand même de prendre soin de toi, de reprendre de l'énergie, de reprendre de l'optimisme, de retrouver ton peps et ton dynamisme. Et seulement après, une fois que tu as l'idée bien claire, là, commencer à te dire, est-ce que je change de poste, d'équipe, de structure ou de métier complètement, quoi. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager ce podcast autour de toi. On ne sait jamais le bien qui peut faire, les prises de conscience qu'il peut déclencher. Et si tu veux échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place ou sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.